Hôpital Saint-Philippe, 26 mai 83, Rimont.
Nous étions arrivés à l'article 3. Nous l'avions vu, je crois, sauf les objections que nous allons voir maintenant tout de suite. Je vous avais dit l'importance de cet article parce que c'est de montrer le dépassement de la raison et la nécessité de la foi en raison de ce que représente le bonheur de l'homme. Donc, c'est toute la question du désir naturel qui est là sous-jacent. Comment se fait-il que l'homme, en raison de son intelligence, ne peut acquérir la plénitude de la béatitude que dans la vision béatifique? C'est une question très difficile, hein, très difficile à bien préciser, on dit des tas de bêtises, et c'est un très bel article. Ça, c'est sûr, c'est un très bel article à ce point de vue-là. Difficile, mais intéressant, parce que c'est là où saint Thomas montre pourquoi il faut croire. Vous voyez, la finalité de la foi. Quand vous êtes en face de gens qui ne croient pas, il faut leur faire comprendre pourquoi nous croyons. Et pourquoi, de fait, notre vie est fondée sur la foi. Il faut donner la vraie raison. Il ne faut pas donner des raisons à côté. C'est pas extraordinairement dire oh, oui, vous avez comme vous avez de la chance de croire. Vous avez de la chance de croire. Tout est plus facile parce que vous ne croyez pas du tout. Ce n'est rien du tout une question de facile ou pas facile. Jamais ne pose la question comme ça. Et quand les gens vous disent ça, il faut leur renvoyer la balle, mais vous n'avez qu'à vous y mettre et vous verrez bien. Quand on dit ah, c'est facile la vie religieuse, c'est une machine. Mais allez-y, on embauche. Et on va mieux voir qu'au bout d'un mois ou deux mois ce que vous direz. Parce que si on n'avait pas la vocation, on ne le ferait pas. C'est bien évident. Il faut le très grand réalisme. Pourquoi la foi? C'est à cause de la vision béatifique. Il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi la foi? À cause de la raison, à cause de la vision béatifique. Et la vision béatifique m'est donnée à travers la rédemption. Oui. Alors ce serait aussi une des très belles manières de voir le mystère de la rédemption dans l'année sainte. Le rapport entre la vision béatifique et la rédemption. Comment la rédemption nous conduit à la vision béatifique. Et la signification, c'est la finalité dernière. Il faut passer par la rédemption pour la vision béatifique. Il n'y a pas moyen autrement. Et la foi, c'est la finalité directe. Vous voyez, c'est ça qui est très curieux. Hein. Parce que nous disons très facilement, nous croyons à cause du Christ. Nous croyons, parce que nous croyons au Christ. Ce n'est pas la finalité, c'est la vision béatifique. Et c'est vrai que je ne peux acquérir la vision béatifique que par le Christ. Mais c'est la vision béatifique qui justifie la foi. Je ne crois pas pour devenir plus intelligent, je ne crois pas pour avoir une conception plus exacte sur l'homme, je ne crois pas pour avoir une conception plus exacte de l'univers, non. Je crois à cause de la vision béatifique. Ce qui montre très bien que la foi est tout de suite ordonnée à la contemplation. Et que si je n'ai pas le sens de la contemplation, je ne peux pas avoir le sens de la foi. C'est que dans un monde où la contemplation disparaît, la foi disparaît. Ça ne peut pas être autrement, c'est impossible autrement. Un monde dans lequel le point de vue de l'efficacité prime et qu'on ne voit plus que la transformation de l'univers, à la manière marxiste, que uniquement cela, on ne voit plus que la transformation de l'univers, eh bien la foi disparaît. Il n'y a plus de place pour la foi, vous voyez. C'est ça qu'il faut voir. L'intellect pratique, ordonné à la transformation de l'univers, n'a pas de place pour la foi. Il n'y a plus de place pour lui à Bethléem. Il n'y a plus de place. C'est l'intellect spéculatif, avec le désir de la vision béatifique, avec le désir de voir Dieu, c'est l'intellect spéculatif avec le désir de la contemplation qui peut seul donner la raison profonde pourquoi je crois. Une raison de plus de faire de la philosophie de la métaphysique, oui. Parce que ça creuse en vous le sens de la connaissance spéculative. Si vous n'aviez pas le sens de la connaissance spéculative, c'est très curieux ça, mais c'est important. C'est important dans le monde d'aujourd'hui, parce que quand on a affaire à ceux qui ont rejeté la foi et qui disent « on n'a plus besoin de la foi », je me trouve très heureux sans la foi. Elle dit, mais quel est le but de votre vie? Planter des choux. C'est très bien, pas étonnant. Pour planter des choux, vous n'avez pas besoin d'avoir la foi. Construire des maisons, pas besoin d'avoir la foi. Gagner de l'argent, pas besoin d'avoir la foi. C'est même plus gênant de l'avoir. On se pose quelques petits problèmes, tandis que si on n'a pas, on ne se pose pas de problème. Donc, c'est pour ça, c'est pas étonnant. Comment voulez-vous? Il n'y a pas de place. Il faut être très réaliste là-dessus. Parce que toutes les fausses raisons à la place d'aider font l'inverse. Alors il faut montrer, alors c'est autre chose, vous voyez, quand je dis que la foi nous donne un regard ultime sur l'homme, et montre toutes les dimensions de l'homme. Mais je pourrais philosophiquement découvrir que l'homme est fait pour la contemplation. Découvrir que l'homme est fait pour la contemplation, ça laisse la place à la foi. Oui, c'est ça qui est très beau. C'est là où la philosophie joue un rôle, d'ouvrir, de montrer la place de la foi. Parce que d'une intelligence qui est ordonnée à la contemplation, alors il y a toute une place pour la foi. Parce que la contemplation plénière n'est donnée dans la vision béatifique. C'est pour ça que cet article 3 est très très important. Mettez-le en parallèle avec la nécessité de la grâce, mais pour moi, il est beaucoup plus précis que la nécessité de la grâce. Il faut les mettre en parallèle. Hein. On pourrait, ce serait un très beau petit travail, de réunir toutes les fois où saint Thomas montre le passage de la nature à la surnature et la nécessité de la surnature. Ça, c'est très intéressant parce que c'est tous les rapports entre le naturel et le surnaturel. Et c'est sûrement une des choses les plus difficiles. Hein. Et voyez bien le cours que nous faisons, théologie fondamentale, rapport de la foi et de l'intelligence, pour nous, c'est particulièrement important. Je dirais que c'est cet article-là qui est l'article de base sur toute une théologie fondamentale, c'est-à-dire les rapports de la nature et de la surnature. Alors, je prends la première objection. Oui ?
Pourquoi du coup cette argumentation est plus précise que celle de la...
Oui, plus précise parce qu'on est du côté de l'intelligence. Oui, on est du côté de la connaissance. Or, les degrés de vie ne se précisent parfaitement que du côté de la connaissance. Oui ? Oui, mais moins précise. Elle est beaucoup plus précise ici, vous avez entendu la finalité. Vous voyez, comme cause propre. C'est la même, puisque c'est toujours la vision béatifique, c'est sûr, c'est toujours la vision béatifique, c'est toujours une fin surnaturelle, vous voyez. Ici, c'est la vision, voir Dieu. Oui. Alors c'est plus précis, et parce que la raison simple, c'est que les degrés du savoir, les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance. Or, il s'agit de comprendre le passage d'une vie intellectuelle, spirituelle, à la vie divine, surnaturelle. Oui.
Beaucoup de gens ont perdu la foi parce qu'ils ne croient plus en la bonté de Dieu. Mmh. Et alors, ils n'ont plus envie de le voir.
Oui, exactement. Parce qu'on n'a pas envie de voir un être qui n'est qu'un juge. Je n'ai pas besoin, pas besoin. Oh oui, c'est censé faire un dieu tyran, on n'a pas besoin de le voir. Alors on le boude. Quoi ?
Comment on peut
répondre ? Ça, c'est un peu légétique. Il faudrait devant qui je me trouve. Mais je crois que dans le monde d'aujourd'hui, la plupart du temps, quand tu es en face de ça, je crois, c'est de pouvoir réaliser dans la mesure du possible, avec ces gens, une véritable amitié. Donc vous donnez le témoignage de la bonté. Et quand vous donnez le témoignage de la bonté, vous commencez à faire que leur cœur enlève le durcissement qui s'est créé à cause de l'amertume. Et alors, à ce moment-là, il y a une possibilité de faire comprendre quelque chose de plus. Ça me semble impossible autrement. C'était Paul VI avait déjà dit ça, d'une autre manière, mais il avait dit ça dans l'exhortation apostolique, en montrant que dans notre monde d'aujourd'hui, avant d'enseigner, il faut créer un climat. Quand vous êtes en face d'un autre individu qui ne croit pas, si vous le connaissez bien, réalisez une amitié avec lui. Et réaliser une amitié avec lui, c'est de recréer une nouvelle aspiration. C'est de recréer un climat sur lequel il pourra y avoir là. Vous voyez ? Parce qu'à ce moment-là, dans une amitié, vous pouvez lui faire comprendre, mais là, l'option que vous avez faite, j'ai opté pour la vie contemplative. S'il n'y a pas d'amitié, on vous dit, oh, optez pour la vie contemplative. Mais qu'est-ce que c'est que cet original, cet insensé qui dit au milieu de tout le monde, qui cherche la vie contemplative ? Mais ça ne se fait plus au XXe siècle. C'est fini, ça. C'était bien pour le Moyen-Âge. Mais maintenant, c'est fini. Tandis que si vous êtes avec quelqu'un qui a une amitié avec vous, ah, il dira, mais qu'est-ce que c'est ? Il s'intéressera parce qu'il vous aime. Oui, c'est en ce sens-là que l'amitié rétablit l'éthique et l'amitié est la plaque tournante pour le point de vue de conversion. Moi, je crois que c'est la seule manière dans le monde d'aujourd'hui. Et je vous dis, Paul VI, si on avait écouté avec beaucoup d'attention l'exhortation apostolique de Paul VI, on pourrait à partir de là établir une véritable catéchèse et pastorale. Parce que c'est ce que nous dit Paul VI à propos de l'exhortation apostolique. Vous savez qu'il a donné ça 10 ans après le concile. Alors, c'est intéressant. Ça m'a beaucoup intéressé, ce passage, cette manière dont Paul VI regardait les choses. C'est intéressant si on faisait un cours de pastoral, vous voyez. Un cours de pastoral commencerait par montrer l'exhortation apostolique de Paul VI et montrer ce qu'elle implique au point de vue théologique, ce qu'elle implique au point de vue pratique. Et on verrait à ce moment-là que Paul VI pose une nouvelle pastorale. Et c'est très vrai, il pose une nouvelle pastorale. Il montre que, étant donné que le monde s'est déchristianisé, là nous on regarde les conséquences du monde déchristianisé, vous voyez. Alors que lui part tout de suite de cette notion-là. Le monde s'est déchristianisé, il s'agit de pouvoir contacter ce monde qui s'est matérialisé. Il montre qu'à ce moment-là, la prédication ne suffit plus. Et qu'il faut recréer des climats, des milieux de vie. Alors, on recrée un milieu de vie par l'amitié. La concorde, l'amitié. Voyez. C'est en ce sens-là que je crois, au point de vue apostolique d'aujourd'hui, indispensable de petites communautés. S'il n'y a pas une communauté avec un climat de vie, mais non, on ne pourra pas. Les gens ont besoin de ça, comme qu'on puisse leur dire, venez voir, venez. Tandis que quelqu'un qui est seul avec son presbytère, il ne peut pas dire, allez, venez voir, alors il verra le chien, le chat, il verra le... Mais il ne verra pas grand-chose d'autre, vous voyez, il verra la pipe qui reste là dans le coin, la télévision dans l'autre coin, c'est pas ça qui va l'aider à comprendre autre chose, à faire un dépassement. Il dira, c'est exactement comme les autres, quoi, tout simplement. Il vit là comme un fonctionnaire de Dieu, un fonctionnaire de Dieu particulier, mais un fonctionnaire. Et il a l'avantage par votre famille, donc il a moins de responsabilités. Tandis que si on montre une communauté, c'est autre chose. C'est très différent. Et bien c'est là-dessus qu'il faut essayer de réfléchir ce que c'est que la pastorale donnée par Paul VI. Et vous voyez, ça se base sur des questions comme ça. Toute pastorale est fondée sur une théologie. Et toute pastorale est fondée sur une théologie. Alors, demandons sur quelle théologie elle est basée. Et quand on ne sait pas répondre, faisons l'analyse. Oui. Et nous devrions savoir répondre. Nous devrions savoir répondre que l'exhortation apostolique de Paul VI est à la racine de toute une nouvelle pastorale. Il le dit explicitement. Donc si on l'écoutait, on verrait ça. Et je crois que c'est tout à fait la position du pape actuel. Il faut créer un nouveau climat pour pouvoir que la foi puisse naître, vous voyez. Elle ne peut pas naître n'importe comment. Le Saint-Esprit n'a pas besoin du climat. Il peut, à travers la pluie, faire pousser des oignons. Il peut faire ça. Mais nous ne pouvons pas. Nous avons besoin d'un milieu. Nous avons besoin d'un milieu. Parce que notre vie apostolique est conditionnée, tandis que celle du Saint-Esprit ne l'est pas. Donc, alors, nous sommes obligés, mais nous devons comprendre quel est le conditionnement à travers lequel nous pouvons transmettre la foi. Alors, premier article, première objection. Pour son salut et pour sa perfection, un être peut toujours se contenter, semble-t-il, de ce qui lui convient selon sa nature. Mais ce qui est de foi dépasse la raison naturelle de l'homme. C'est ce qui ne voit pas, c'est ce qui ne se voit pas. Pour être sauvé, il ne semble donc pas nécessaire de croire. Donc c'est la première raison, c'est le point de vue, si vous voulez, de l'exaltation de la nature. Saint Thomas répond, parce que notre nature dépend d'une nature supérieure à nous. La connaissance naturelle ne suffit pas à notre perfection, comme on vient de dire. Alors, vous voyez, vous vous souvenez le raisonnement de la dernière fois, hein? La partie et le tout, et l'homme, personne, et sa source. Hein? Souvenez bien, parce que ça c'était très beau comme petit raisonnement de Saint Thomas. La partie a une fin qui lui est propre, la partie étant dans le tout, la partie soumise au tout, elle a un mouvement autre qui vient du tout. L'exemple de la marée, le flux, le reflux, qui provient de la lune, qui n'est pas l'eau. Et puis le mouvement propre de l'eau. Donc l'eau a deux mouvements, le mouvement du flux, du reflux, et puis le mouvement propre de la pesanteur. Quand il s'agit de l'esprit n'est pas parti. Quand il s'agit de la personne humaine, en tant qu'il est esprit, l'esprit n'est pas parti. Donc il est directement relié à sa source. Et c'est pour ça que le bien propre de la personne est directement relié à sa source. Alors là, on comprend de façon immédiate et de façon immédiate. Alors, dans la mesure où on découvre le média, on a besoin de l'immédiat. Par la foi, je suis directement relié à Dieu créateur. Par mon intelligence, immédiatement. Alors, le lien avec Dieu immédiatement me fait appel à l'immédiat. L'immédiat dans le média. Forcément, ça peut être autrement. Donc, si j'atteins le média, j'ai soif de l'immédiat. Et je m'ouvre à l'immédiat, c'est-à-dire je m'ouvre à l'ordre surnaturel qui me conduit. Tandis que la partie comme telle, vous voyez, n'est liée au tout que d'une manière indirecte, pas d'une manière directe. Donc la partie ne peut jamais désirer être liée au tout. S'identifie au tout. Tandis que la personne n'est pas une partie. Au fond, c'est la relation tout à fait différente de ce que c'est qu'une personne et de sa fin. Le problème de la finalité, parce que c'est le problème de la finalité, ça. Le problème de la finalité, dès qu'il s'agit d'une personne, fait que je dois aller jusqu'au bout. La fin, c'est toujours celle ultime. Et donc, une fin immédiate réclame la fin immédiate. Il faut saisir ce point de vue-là. Alors, deuxième objection. Il est même dangereux pour l'homme d'adhérer quand il ne peut juger si ce qu'on lui propose est vrai ou faux. Il est dit au livre de Job, l'oreille même ne juge-t-elle pas les mots qu'elle entend? Or, on ne peut avoir un tel jugement dans ce qui est de foi, puisqu'on ne peut résoudre cela dans les premiers principes par lesquels nous jugeons de tout. Il est donc périlleux de prêter foi à de telles choses, et croire n'est pas nécessaire au salut. Donc voyez bien l'objection, hein? C'est imprudent, tout simplement. La foi, c'est la suprême imprudence. Parce qu'au fond, vous adhérez à des choses que vous ne pouvez pas vérifier. C'est le gros argument, hein, Alors c'est bon pour les femmes et les enfants. Alors les femmes, oui, parce qu'elles ont besoin de ça. Et les enfants aussi. Alors on envoie au catéchisme des enfants jusqu'à les garçons, les femmes, on le sont les, ça leur fait du bien. Mais les enfants, les hommes, non, c'est pas pour eux. C'est le gros raisonnement, hein, constant, ça. Parce qu'on n'arrive pas, on ne peut pas justifier, on ne peut pas discerner. Réponse de saint Thomas. De même qu'on adhère au principe par la lumière naturelle de l'intelligence, d'eux-mêmes étant vertueux, on a par l'habitude même de la vertu un jugement droit sur ce qui se rapporte. Et donc, sicut ita, c'est donc le raisonnement analogique que donne saint Thomas ici. Eh bien, c'est aussi de cette façon, par une lumière de foi divinement infuse en lui, que l'homme adhère à ce qui est de foi et pas à ce qui est contraire. C'est pourquoi il n'y a pas ombre de péril ni de damnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Lui-même les éclaire de sa lumière par la foi. Oui, ça c'est très beau. Ab ipso illuminati perfidem. Vous voyez qu'ici, saint Thomas reprend l'analogie de la foi qui illumine. C'est très très fort comme raisonnement, ça. Hein? La foi porte en elle-même sa propre justification. Alors évidemment, quelqu'un qui ne croit pas ne peut pas juger de quelqu'un qui croit. Il faut avoir le courage de le dire. Exactement comme quand un croyant se met à critiquer l'Église, il ne vous peut pas. Comme quelqu'un critique une famille, vous ne pouvez pas, faites pas partie. Donc vous ne pouvez pas, vous voyez les choses à l'extérieur. Si vous voyez les choses à l'extérieur, vous ne pouvez pas. Le jugement sociologique est un jugement qui est extérieur et qui ne nous dit rien sur la finalité propre. Et la foi porte en elle-même sa propre justification. Ab ipso illuminati perfidem. Le croyant, comme croyant, est illuminé par le Christ. Et il fait comprendre qu'à ce moment-là, il a pour lui-même sa propre justification. Et il a pour lui-même sa propre certitude que sa foi n'est pas une illusion. Vous savez, quand on vous dit, n'est-ce pas, c'est pas étonnant, vous vous laissez prendre les uns par les autres, c'est du fanatisme, n'est-ce pas? Alors, vous, un certain temps, vous êtes moulé dans un... Alors, dit non, pas du tout. La foi porte en elle-même et par elle-même. Vous voyez, ce serait la différence avec la secte. Dans une secte, c'est le tout qui commande les parties. Dans une communauté chrétienne, c'est chaque partie qui est illuminée. C'est chaque personne qui a sa propre lumière et qui reconnaît ça, qu'elle a sa propre lumière. Et donc chacun a sa liberté intérieure qui correspond à cette justification profonde de son adhésion au Christ. Tandis que dans une secte, on est tenu par le tout. Et c'est le tout qui vous tient. Alors, vu de l'extérieur, sociologiquement parlant, ça paraît un phénomène analogue. Alors, il faudrait voir comment sociologiquement vous pouvez voir la différence entre une secte et une communauté religieuse. C'est intéressant parce que c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, on met tout dans le même sac. L'autre jour, il y avait des articles dans Le Monde qui mettaient exactement parallèles les sectes et puis les petites communautés religieuses qui arrivaient, qui montaient. Ça, c'est exactement la même chose, c'est des sectes. Regardez, on a besoin de sectes aujourd'hui. Parce que les gens n'ont plus aucune, elle en a besoin. Là, c'est pas étonnant qu'il y ait des petites communautés religieuses qui surgissent, parce qu'au fond, ils ont besoin de sectes, ils ont besoin d'un climat fort. S'ils n'ont pas un climat fort, eh bien, ça ne résiste pas. Donc, il faut des sectes. Alors, il faut bien comprendre, alors, profondément, la différence, c'est que dans une communauté religieuse chrétienne, chaque personne est finalisée par elle-même. Et se finalise par elle-même. Dans une secte, le tout. Et alors, comment pourrions-nous montrer sociologiquement la différence? Parce que c'est un jugement de l'intérieur. On doit pouvoir montrer sociologiquement la différence. Ça doit être au tournant. Mais c'est le vrai tournant. C'est la manière dont une secte réagit devant une faille et la manière dont réagit une communauté religieuse devant une faille. C'est à ce moment-là qu'on voit les différences. Une communauté religieuse devant une faille, devant une brisure, quoi, devant quelqu'un qui trahit, pour prendre les choses par leur nom, n'est-ce pas, devant quelqu'un qui renie. La communauté chrétienne devant quelqu'un qui renie, où il y a une faille, eh bien, elle ne modifie pas sa marche. La finalité demeure la même. Parce que la finalité est personnelle. Donc elle n'est pas modifiée si quelqu'un fait une crasse à côté de moi. On continue. C'est ce que nous faisons tous les jours, quoi. Nous continuons. Même si à côté, il y en a. Très bien, si vous. Tandis qu'une secte, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle punit tout le monde. Pour resserrer les écrous. Oui. Punition générale, il y a ça, c'est pas tous coupables. Alors on punit tout le monde, on resserre les écrous, parce que s'il y a une faille, il ne faut plus en avoir. Mais dans une communauté religieuse, on accepte les failles personnelles. Parce qu'on laisse la liberté. Donc, il peut toujours y avoir ça. C'est pas, sans doute pour ça qu'il y a Judas, vous voyez. Pour nous faire comprendre la différence entre une secte et puis une communauté chrétienne. La communauté chrétienne la plus parfaite a supporté un Judas. C'est quand même invraisemblable. La communauté parfaite, la plus parfaite, elle a supporté un Judas. Tandis qu'au contraire, que si c'était une secte, ça ne supporterait pas ça. On resserrait les écrans. Il me semble bien. Je vous dis ça à titre de recherche, parce que c'est intéressant. Et il faut là encore donner les arguments de nous-mêmes, hein, direct, parce que ce sont des choses que vous entendrez. C'est dans l'air actuellement. C'est dans l'air, alors il faut pouvoir... Et quand on est pris au dépourvu, non, si le Saint-Esprit vous éclaire, ça va très bien. Mais autrement, il faut avoir réfléchi là-dessus. La secte n'a pas de finalité des individus. C'est le tout qui est finalisé. Et en réalité, ce n'est pas une fin. Uniquement un problème d'efficacité. La secte, c'est l'efficacité. Et alors que la communauté chrétienne, c'est la finalité. Il n'y a pas de finalité au sens propre, c'est l'efficacité. L'efficacité pure. Alors l'efficacité pure qui fait que tous les rouages se tiennent, ils doivent se tenir très très fort pour pouvoir réaliser, parce que dès qu'il y a, vous voyez, quelque chose de fêlé, hein, ça ne va plus. Alors on le rejette et puis on resserre. Il me semble bien que c'est quand il y a une faille du côté de l'efficacité, on resserre tous les écrous. Vous voyez ? Dès qu'il y a une faille du côté de l'efficacité, dès qu'il y a une faille du côté finalité, chacun reprend le sens plus profond de la finalité. Ça nous donne une leçon pour reprendre le sens plus profond de la finalité. Il faut réfléchir là-dessus. Puis si vous avez des idées, vous me direz. Parce que c'est intéressant. C'est au fond ça qu'il nous a montré ici. Hein. Parce que juger la foi comme une croyance de ceux qui... La foi n'est pas la croyance de ceux qui appartiennent à une secte. Ceux qui appartiennent à une secte sont fanatiques. Sont fanatisés. Ils sont chloroformés. Toute une tactique pour chloroformer quelqu'un. Et il y a toute une tactique pour finaliser. Je crois qu'une secte ne pourrait pas supporter des cours de métaphysique. Ce serait le critère, si vous voulez. Est-ce que j'ai une communauté pour supporter ? Oui, c'est très vrai, vous savez ça. C'est beaucoup plus loin qu'on le dit, ça. Une secte ne supporterait pas des cours de philosophie première, de métaphysique. C'est peut-être une des raisons pour laquelle l'Église veut à tout prix maintenir la philosophie première, pour ne pas tomber dans la secte. C'est une garantie au point de vue humain, parce que la philosophie maintient le point de vue de l'esprit, vous voyez, et de la finalité propre, de l'être en acte. Alors ça maintient que chaque personne, puisque s'il n'y a pas de métaphysique, vous n'avez pas une notion propre de la personne. Vous n'avez qu'une notion psychologique de la personne. Alors une notion psychologique de la personne ne peut pas distinguer la personne chrétienne d'une personne finaliste, d'une personne qui est fanatique. Impossible, parce que c'est encore jugement d'extérieur. Alors, c'est une philosophie première qui donne le sens de la finalité. Et en donnant le sens de la finalité, elle donne le sens de la personne. Et donc, elle me permet de comprendre comment une communauté qui est capable de supporter un cours de philosophie première et d'essayer d'entrer dedans est une communauté chrétienne. Et une communauté qui n'est pas capable, qui n'est pas chrétienne et qui est uniquement une secte ne pourrait pas le supporter. Réfléchissez aussi là-dessus. Ça, c'est assez récent. Parce que si vous essayez de comprendre la signification d'une formation chrétienne, pourquoi une formation chrétienne a besoin de cultiver l'intelligence? Et pourquoi une formation d'un fanatisme n'a besoin que d'exercice de gymnastique? Uniquement. Ça, uniquement des exercices communs qu'on fait pour maintenir quelque chose de commun. Et voyez, c'est là où on voit très bien que la liturgie n'explique pas. La liturgie, il y aura toujours une liturgie, aussi bien dans une secte que dans un... C'est pas la liturgie qui donne la note. C'est la contemplation, c'est la finalité et la philosophie première. C'est intéressant, vous voyez, parce que c'est des choses, c'est, je dis ça touche tous ces articles-là. C'est intéressant de voir quelles sont les notes communes sociologiquement parlant d'une secte et d'une communauté religieuse. Fervente, hein. Et de la même ferveur, il peut y avoir des sectes qui sont aussi ferventes que des communautés religieuses. La différence est que l'une ne dure pas et l'autre dure. Mais autrement, il peut y avoir une ferveur aussi grande. Et avec un baromètre pour voir la chaleur des deux, on verrait la même chaleur. La chaleur serait la même, la ferveur serait la même. Et d'un côté, c'est une serre surchauffée, et de l'autre côté, c'est un ciel ouvert. C'est pas la même chauffage. Le chauffage différent. Mais c'est amélioré. C'est le chauffage et peut-être peut arriver la même ferveur. Alors il faut voir les éléments communs. Et puis, en même temps, ce qui distingue. Troisième objection, le salut de l'homme réside en Dieu. Le salut des vôtres vient du Seigneur, dit le psalmiste. Mais ce qu'il y a d'invisible en Dieu se découvre à la pensée par ce qu'il a fait, même son éternelle puissance et sa divinité, comme le dit l'apôtre. Ce qui se découvre à la pensée, on n'a pas à le croire. Il n'est donc pas nécessaire au salut que l'on croit des choses. Alors, réponse. Les attributs invisibles de Dieu, la foi les perçoit d'une façon plus élevée et en plus grand nombre que ne fait la raison naturelle lorsqu'elle remonte des créatures à Dieu. Ah, ça, c'est très intéressant pour comparer la théologie naturelle et la théologie révélée. Invisibilia Dei, actiori modo, quantum ad plura, percipit fides, quam ratio naturalis ex creaturis in Deo procedens. D'où cette parole de l'ecclésiastique. On t'a montré beaucoup plus de choses que l'intelligence humaine n'en peut comprendre. Alors c'est là où ce serait très intéressant, quand vous regardez la somme théologique de saint Thomas et que vous voyez toutes les manières d'exister de l'être premier, de Dieu, de voir quels sont les attributs qui relèveraient d'une métaphysique, d'une théologie naturelle et ceux qui relèveraient proprement d'une théologie inspirée par la foi. Alors, voyons tout de suite l'article suivant. Est-il nécessaire de croire ce qui peut être prouvé par la raison naturelle? Il est nécessaire de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a pas de corps, et qu'il n'a pas de corps, Et ce sont là des points que par la raison naturelle, les philosophes sont en état de prouver. Il est nécessaire à l'homme de recevoir comme une foi, non pas seulement des choses qui sont au-dessus de la raison, mais aussi des choses qui peuvent être connues par la raison. Il est nécessaire, nous dit saint Thomas. D'abord, afin qu'il parvienne plus vite à la connaissance de la vérité divine. Vous avez un lieu parallèle, donc contre Jatilès. Hein. Contre Jatilès reprend ses idées-là. Contre Jatilès, chapitre 4. Et c'est dit d'une façon encore plus ample. D'abord, afin qu'il parvienne plus vite, donc la nécessité d'aller plus vite. Ça va plus vite la foi que la métaphysique. Puisque la métaphysique peut avoir 45 ans, tandis que la foi, on peut avoir 7 ans. N'est-ce pas? Alors oui, comme on gagne du temps. Donc, pour aller plus vite. D'abord, afin qu'il parvienne plus vite à la connaissance de la vérité divine. Car la science à laquelle il appartient de prouver que Dieu existe et d'autres choses du même genre au sujet de Dieu, c'est en dernier lieu qu'on la donne à apprendre aux hommes. Beaucoup, beaucoup d'autres sciences étant présupposées. Ainsi, c'est seulement après une longue période de sa vie que l'homme parviendrait à la connaissance de Dieu. La métaphysique, ça met du temps, voilà, tout simplement. La foi, ça, c'est direct. Ça fait gagner du temps. Je ne dis pas que la métaphysique, ça en fait perdre, mais la métaphysique, ça met longtemps. Tandis qu'au contraire, la foi fait gagner du temps. Donc, première raison. Ensuite, afin que la connaissance de Dieu soit plus répandue. Communion, élément de communion, donc d'universalité, être catholique. Il n'y a pas de philosophie catholique. Il n'y a pas de métaphysique catholique. Tandis qu'il y a une foi catholique. C'est tout de suite un autre climat. Parce que de fait, c'est pour que ce soit répandu à plus. Afin que la connaissance de Dieu soit plus répandue. Beaucoup, en effet, ne peuvent progresser dans l'étude de la science. Soit parce qu'ils ont l'esprit hébété, beaucoup, hein, Satan n'hésite pas de le dire, multi animis studio gensi et profit chirenum possunt, vel propter hébétudinem ingénie. Alors, je vois la catégorie dans laquelle on se trouve, hein. C'est bon. Alors, beaucoup, en effet, ne peuvent progresser dans l'étude de la science, soit parce qu'ils ont l'esprit hébété, soit parce qu'ils ont d'autres occupations. Ça, c'est plus noble, déjà. Hein. Ils ont une usine à faire marcher. Donc, d'autres occupations. Et qu'ils sont pris par les nécessités de la vie temporelle. Soit aussi parce qu'ils ont de la torpeur pour apprendre. Ça, c'est encore plus général. Soit la torpeur post-chiboum, alors ça ne va pas très bien. Propter torporem, adishandi. Donc ils ont la torpeur d'apprendre. Les marmottes, que voulez-vous. Il y a la spiritualité des marmottes. Et alors pendant 6 mois de l'année, on dort. Alors on n'arrive pas à avancer. Et vous voyez, c'est très très joli. Pourquoi Dieu va-t-il nous révéler des vérités qu'on pourrait avoir par la raison? C'est pas pour favoriser la paresse, c'est tout simplement étant donné ce qu'est l'homme. Alors, à cause de la multitude des gens qui sont... Saint Thomas n'a pas beaucoup d'illusions là-dessus. Au fond, la métaphysique, c'est pas quelque chose de très, très divulgable. Non. À cause de beaucoup, multi. Multi enim in studio scientiae proficere non possunt. C'est rare qu'il y ait les trois inconvénients en même temps. Et ça peut arriver, non? Alors, il y a au moins chacun des inconvénients. Donc, à cause de l'hébétitude, la bêtise. Ça, c'est plus rare. La torpeur, on peut encore y arriver. Hein. Mais on peut piquer les individus pour leur donner un peu plus de nerfs. Tandis que l'hébétude, on n'a pas encore trouvé des pilules contre l'hébétude. C'est bien dommage. Donc, pour faire les gens plus intelligents. Alors, ces gens seraient frustrés entièrement de la connaissance de Dieu si les choses divines ne leur étaient proposées par mode de foi. C'est très intéressant, parce que ça, c'est très révélateur de saint Thomas, ça. C'est très rare que saint Thomas nous fasse des confidences comme ça, vous voyez. Ça, c'est les petites confidences de saint Thomas. Comment saint Thomas regarde-t-il, je ne dis pas ses confrères, mais et comment saint Thomas regarde-t-il l'humanité? Tout simplement, bon, il voit, c'est pas commode, quoi. C'est pas commode d'arriver par sa propre intelligence, par la philosophie, d'arriver à prouver l'existence de Dieu, d'arriver à une certaine contemplation. Pas commode. Il y a trois raisons. Alors, Dieu vient en aide. Dieu vient en aide, et c'est pour ça qu'il révèle, même à ceux qui n'ont pas une intelligence extraordinaire, Dieu révèle aux petits, même à ceux qui sont très occupés, même à ceux qui sont très fatigués. Troisièmement, pour avoir la certitude donc, ces gens-là seraient frustrés entièrement de la connaissance de Dieu si les choses divines ne leur étaient proposées par mode de foi. Troisièmement, pour avoir la certitude. Alors oui, la troisième raison, c'est la certitude. Avant Descartes. Vous voyez ce que je vous disais ce matin? La foi, c'est la certitude. Et donc, quand on cherche au plan philosophique la certitude avant tout, c'est un vieux reste de croyant. Très très curieux ça. Et ça, c'est dit ici explicitement. Et ça, c'est tout le traité de la foi qui nous montre. Troisièmement, pour avoir la certitude, la raison humaine, en effet, est en effet très défaillante en matière de réalité divine. Il y a de cela un indice dans le fait que les philosophes qui ont poussé assez loin, qui ont poussé avec soin l'investigation naturelle en matière pourtant de réalité humaine, sont tombés dans beaucoup d'erreurs sur bien des points, et se sont contredits eux-mêmes dans le sentiment qu'ils ont eu des choses. Pour qu'il y eût donc parmi les humains une connaissance sur Dieu qui fût certaine et hors de doute, il fallait que les réalités divines leur fussent transmises par mode de foi comme étant dites par Dieu qui ne peut mentir. Donc on voit bien la raison que donne saint Thomas. La dernière raison, c'est la certitude. Parce qu'en fond, les hommes arrivent avec très difficulté, très grande difficulté. C'est facile à comprendre, ça, je crois que c'est pas très difficile. Mais c'est intéressant parce que ça montre comment le domaine de la foi doit s'étendre sur un domaine qui serait les préambula fini. Tout ce que l'intelligence humaine pourrait atteindre, eh bien Dieu vient au-devant de l'homme. Dieu vient au-devant de l'homme pour l'aider. Alors, voyons vite les objections. Apparemment, ce n'est pas nécessaire, car dans les œuvres de Dieu, on ne trouve rien de superflu, beaucoup moins dans les œuvres de la nature. Mais lorsqu'une chose peut se faire par un seul moyen, il est superflu d'en ajouter un autre. Ce serait donc superflu de recevoir par le moyen de la foi ce qui peut être connu par le moyen de la raison naturelle. Alors, réponse de saint Thomas. Les investigations de la raison naturelle ne suffisent pas au genre humain pour connaître les choses divines. Mais dans ce que la raison peut montrer aussi, oui, mais, pardon, même dans ce que la raison peut montrer aussi, n'est-il pas superflu de croire de telles choses? Donc, c'est la raison tout simplement de l'article. C'est que même quand la raison humaine peut démontrer certaines choses, la révélation peut être nécessaire pour les trois raisons dites. tout simplement. On terminera la semaine prochaine.